Alors, bonjour à tout le monde. Un excellent sabbat. C'est vraiment bon de se retrouver ensemble chaque semaine, de se retrouver les sourires. Alors, écoutez, pour le message d'aujourd'hui, commençons par aller dans Matthieu, chapitre 24. Un chapitre que vous connaissez sans doute très bien, chapitre 24. Et on va lire à partir du verset 36. Dans ce contexte-là, le Christ est en train de répondre à ses disciples concernant les événements qui vont précéder sa deuxième venue, qui est toute proche devant nous. Et ici, il précise un certain nombre de choses concernant cette époque bien déterminée, tout proche de laquelle nous nous trouvons actuellement dans le temps. Alors, verset 36, il leur dit ceci pour ce qui est du jour et de l'heure de son retour. « Personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils. » Mais le Père seul, c'est la prérogative du Père. Verset 37. Et là, il donne une analogie pour que ceux rendus à cette époque sachent bel et bien que c'est l'époque où nous nous trouvons. Ça nous concerne parce que c'est nous qui sommes à cette époque-là, au temps de la fin. Il dit ceci, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Donc, il dit, le principe ici, c'est que ce qu'on sait par la Bible s'être déroulé à l'époque où Noé a construit l'arche pour protéger sa famille du déluge, les mêmes événements qui ont entouré ces circonstances-là vont avoir lieu juste avant son retour, juste avant sa deuxième venue. C'est ça qu'il dit. Il dit, ce qui est arrivé au temps de Noé va arriver avant mon retour. Verset 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, et là il dit ce qui se passait et ce qui va se passer à notre époque. Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Donc, il y avait un semblant de normalité de choses qui avançait, même s'il y avait sûrement des problèmes à l'époque aussi. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et là, ça a marqué un tournant catégorique de l'histoire. Verset 39. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il dit, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, il dit, ce sera la même chose. Alors, le principe qu'il nous donne ici, c'est que les gens ne réaliseront pas, ne verront pas la gravité de ce qui approche, comme les gens n'ont pas vu la gravité de ce qui approchait à l'époque. Bien qu'ils aient été avertis, parce que Noé a prêché durant une centaine d'années avant que le déluge soit effectivement déclenché par Dieu et que tous les êtres humains vivants, à part de Noé et sa famille, qui ont été exemptés, ne périssent. Les êtres humains qui étaient sur la terre ont tous péri. L'avertissement avait été donné. Alors, quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe sur la planète, l'ensemble de la planète connaît de grandes turbulences. Je ne vous apprends rien. Si vous suivez le moindrement les bulletins de nouvelles, au moment où je vous parle, l'économie mondiale s'enlise dans ce que j'appellerais des sables mouvants. Tout est en mouvance et tout est incertain. Beaucoup d'instabilité. Et c'est pour ça que vous voyez l'austérité et la pauvreté s'étendre dans différents pays. Pour certains, ce n'est pas la pauvreté, parce que certains ont le contrôle de certaines choses. Mais pour l'ensemble des populations, c'est la pauvreté. Il y a des conflits armés un peu partout sur la planète, ça se multiplie. Et certains conflits durent depuis des années. Ça fait quelques années en Syrie, et c'est loin d'être terminé. Si on disait, trouvons quelques paroles pour caractériser l'époque où on vit, on pourrait dire « méchanceté ». Même dans nos pays abondants, qui semblent en surface en paix, regardez les violences qu'il y a dans les villes, regardez l'insécurité que les gens vivent dans les villes de plus en plus. Ça avait été annoncé, je n'entrerai pas dans les détails de toutes les prophéties là-dedans, mais ça avait été prophétisé. Mais nous, on les voit, ces choses-là, se produire autour de nous. Parce que nous sommes cette génération qui sommes sur le seuil de voir le Christ revenir. Donc, ce qui est annoncé se réalise maintenant. Beaucoup de méchanceté, beaucoup de violence, même dans nos pays nantis, beaucoup de corruption, beaucoup de mensonges à tous les niveaux de la société, de vols. Il n'y a plus de principes qui tiennent. Lorsque quelqu'un ose parler de moralité, Il est décrit comme vieux jeu, comme ne faisant plus partie de ce monde-là supposément évolué, alors que c'est la corruption qui s'éteint, le vol, le mensonge, l'adultère, la transgression de toutes les lois de Dieu. Et les gens s'en vantent, sont fiers de faire ce qu'ils font. Sans parler, ça, du terrorisme qui prend de plus en plus d'ampleur à travers le monde, dans les pays qui en souffrent directement, Moyen-Orient, en Afrique, dans plusieurs régions du monde, y compris des nations occidentales solides, mais qui ont beaucoup de terrorisme à partir de l'intérieur, où les gens vivent de plus en plus de façon insécuritaire. Les gens ressentent un grand malaise. Les gens sentent qu'il se passe quelque chose de pas normal. Ils le sentent, et parfois dans leurs propos, on le voit. Et beaucoup sont inquiets. Certains aiment mieux regarder ailleurs, faire d'autres choses, ou engourdir la situation pour ne pas trop penser à ces choses-là. D'autres essaient de s'en tirer autrement, ou essaient de, tirer leur épingle du jeu en essayant de survivre le plus longtemps possible. Mais les gens ne comprennent pas où cela va mener, ni comment tout ça va se terminer. En préparant le sermon d'aujourd'hui, il y a une petite image qui m'est venue à l'esprit qui peut peut-être nous aider à comprendre. Les êtres humains vivent à leur niveau d'existence, sans Dieu. C'est comme des enfants dans un carré de sable. Vous voyez, des tout-petits qui jouent dans un carré de sable avec leurs jouets, ils voient les choses à leur niveau, dans leur perspective. Ils ont leurs petits problèmes qui sont gros pour eux, et ils essaient de trouver leur petite solution, mais à leur niveau, à eux. Appliquez ça à l'ensemble de l'humanité. C'est exactement ce qui se passe, sans Dieu. Dieu a dit à Adam et Ève, vous avez choisi de faire les choses à votre façon, je vous donne 6000 ans pour faire l'expérience de vos formes de gouvernement, de vos formes d'administration, de vos formes de scolarité, d'éducation et tout ça. Faites-le. Vous allez échouer parce que sans moi, vous n'allez nulle part, vous allez vous autodétruire. Et si je n'intervenais pas à la fin de l'histoire, vous vous détruiriez totalement. C'est ce qui est marqué dans la Bible. Dieu leur a dit. Il les a laissés aller. Mais nous, on est rendus au bout de l'histoire. Et c'est pour ça qu'on voit les choses devenir plus graves, plus inquiétantes et plus horribles de ce qu'on voit dans les bulletins de nouvelles. Alors, les êtres humains sont dans leur petit carré de sable. Et devant les gros problèmes qu'ils ont, ils cherchent à leur niveau à trouver des solutions là où ils peuvent évoluer. Bien sûr, ils désirent voir un monde différent, ils désirent voir un monde qui irait mieux, mais toujours selon leur perception et toujours selon leur plan de salut, pour ainsi dire. Par exemple, je n'irai pas loin, mais je vous donne simplement quelques petites images qui vont vous aider à comprendre ce que je veux expliquer. Devant l'augmentation importante de la criminalité dans les différents pays du monde et dans nos pays nantis, dans nos belles villes, il y a des endroits, il y a des quartiers de nos grandes villes en Amérique où c'est mieux de ne pas se promener, tout simplement. Certains endroits, c'est mieux de ne pas se promener tard, mais dans certains quartiers, c'est mieux de ne pas y aller du tout. Alors, la criminalité est en nette augmentation. Et comme solution, les humains, dans leur petit carré de sable, ont trouvé la solution de mettre davantage de policiers. Voyez-vous? Alors, on ne règle pas le problème à sa source, on essaie d'endiguer le problème. Et il y a certains quartiers, dans certaines villes américaines, au moment où je vous parle, où les policiers ne vont même plus. Comme dans certains quartiers de certaines villes en France, d'ailleurs, dépassés à l'heure de la journée, les policiers, qu'ils aient des appels d'urgence ou de détresse ou non, ils n'y vont plus. C'est un symptôme de ce qui se passe. Mais on essaie de guérir le symptôme plutôt que la cause du problème. Parce que sans Dieu, on ne connaît pas la cause. Et la cause de tous ces problèmes-là, vous la connaissez, vous connaissez votre Bible. C'est le fait que les gens transgressent les lois de Dieu et qu'ils ne veulent pas changer. Pourquoi cette violence? Pourquoi la corruption? Pourquoi les vols? Pourquoi les adultères? C'est parce qu'on transgresse les lois de Dieu, qu'on aime à les transgresser et qu'on veut continuer à les transgresser. Tout simplement comme ça. Qu'on veut continuer à voler, même ceux qui sont dans des postes élevés du gouvernement ou des municipalités ou des organisations de finances ou tout ça. Devant les attaques terroristes, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a décidé d'investir davantage pour qu'il y ait davantage d'escouades spécialisées pour essayer de faire face aux terroristes et de réagir lorsqu'il y a des attaques terroristes dans nos villes. Alors, c'est encore là, c'est après coup, pour essayer de contenir quelque chose dont on ignore la cause et qu'on n'arrive pas à régler. je vais à un niveau plus haut. Devant les guerres, les conflits, les menaces armées qu'il y a, qu'est-ce que les humains font? Les pays s'arment davantage, achètent davantage d'équipements, d'armement. Je pourrais vous donner des chiffres qui font dresser les cheveux sur la tête, à savoir les montants qui sont investis maintenant chaque année dans l'armement et comment les pays achètent d'armement actuellement. Tout ça au nom de la paix. Comment vous voulez avoir la paix en vous préparant pour la guerre? Ça, c'est la logique des petits humains sans Dieu qui jouent dans leur carré de sable. Ils voient les choses à leur façon, à leur niveau, et ils ont leur solution. Les gens voudraient bien sûr être heureux. Bien sûr, ils voudraient être heureux, ils voudraient arriver à leur salut, si vous voulez, à leur forme de salut, mais sans obéir à Dieu. Parce que quand on leur parle des lois de Dieu, ou quand on leur parle de la moralité, non, ça, on veut rien savoir de ça. On veut vivre notre vie, on veut faire chacun ce que nous voulons faire. C'est ce qui est marqué dans la Bible, à la fin, je pense, du livre des Juges, quand la nation d'Israël s'était éloignée complètement de Dieu. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Vous savez, si vous n'avez pas une règle générale, si vous n'avez pas de loi générale pour régir la société et que chacun fait ce qui lui semble bon, vous avez quoi? Vous avez l'anarchie. Et vous avez au plus fort la poche, pour ainsi dire. Et vous avez la loi de la jungle. Et ce genre de société-là est voué à l'échec. Et c'est pour ça que le Christ va devoir revenir pour empêcher les êtres humains de s'auto-détruire. Ça, c'est la façon de penser des êtres humains aujourd'hui. Et vous savez une chose, c'était la même façon de penser autrefois dans le temps d'Ésaïe. Reportez-vous à Ésaïe chapitre 30, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 30. On va lire versets 9 et 10. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs. Dieu parle de nos nations. Des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel. C'est aussi simple que ça. Dieu fait un diagnostic très simple, un diagnostic très clair. Verset 10. Qui disent aux voyants, à ceux qui veulent leur montrer la voie chrétienne, ne voyez pas. Dites-nous pas ce qu'il faut faire. Dites-nous pas de changer, surtout. C'est notre vie. On fait ce qu'on veut avec notre vie. Qui disent aux voyants, ne voyez pas. Et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, l'Église du Dieu vivant, qui annonce les vérités bibliques, ne sera plus tolérée parce que les gens ne voudront plus, absolument plus, entendre la vérité qui est dans la Bible. Ça aussi, c'est annoncé. Dites-nous plutôt des choses flatteuses. Prophétisez-nous des chimères. Ça, c'est la voie large qui consiste à faire ce qu'on veut. Ce n'est pas la voie étroite que le Christ nous dit devoir suivre si on veut être heureux et si on veut arriver à hériter de la vie éternelle, d'avoir le véritable salut que Dieu nous donne. Les gens veulent régler les problèmes à leur façon, sans se soumettre aux lois de Dieu. Et c'est là que ça ne marche pas. Parce qu'ils vont devoir apprendre plus tard dans l'histoire que c'est seulement en se soumettant aux lois de Dieu qu'on peut être heureux et qu'on peut s'approcher de Dieu et qu'on peut espérer avoir la vie éternelle, entrer dans le royaume de Dieu, naître dans la famille de Dieu en tant qu'être éternel et vivre heureux de cette façon-là. Allez dans 2 Timothée, s'il vous plaît, chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4. Il y a encore ici une description de la même réalité, où les gens, en général, veulent entendre des choses qui leur plaisent. Et c'est pour ça que vous avez de nombreuses églises qui sont pleines capacité, milliers et milliers de personnes, sinon parfois des millions de personnes, parce que les prédicateurs leur disent quoi? Venez comme vous êtes. Dieu vous aime. Aimez Dieu. Mais on ne dit pas qu'est-ce que c'est aimer Dieu. Alors que dans la Bible, aimer Dieu, c'est mettre ses lois en pratique. Mais on dit aux gens, venez comme vous êtes. On vous aime, Dieu vous aime. Vous n'avez pas besoin de changer, dans le fond. Alors, 2 Timothée, chapitre 4, on va lire le verset 3 et 4. Il viendra un temps, et nous sommes rendus à ce temps-là, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ne supporteront pas, c'est fort là. On ne voudra plus entendre parler des choses de Dieu. même du nom de Dieu. À certains endroits, c'est comme ça. J'ai même vu un article dernièrement où il y a un petit groupement aux États-Unis qui ont commencé à faire une espèce de petit battage médiatique pour qu'on enlève des pièces de monnaie américaines le nom de Dieu. On a enlevé les écrits contenant les commandements dans les lieux publics et maintenant on veut même enlever le nom de Dieu sur les pièces de monnaie. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu regarde ces choses-là. Et Dieu va leur dire tout simplement, « Vous m'avez rejeté, vous êtes dans les problèmes majeurs, je vous rejette aussi. » Vous allez apprendre la leçon que lorsqu'on se détourne de Dieu, qu'on le méprise, qu'on le rejette comme vous le faites, il y a des conséquences. Et après, vous serez disposé à suivre ce que je vais vous montrer. C'est fort, c'est puissant. « Ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. » Des belles petites chansons, des choses faciles à comprendre, des choses faciles à faire. Il n'y a pas d'effort à faire, venez comme vous êtes. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Des ministres sur mesure, selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité. Qu'est-ce que le Christ a dit? Ta parole est la vérité. Ils détourneront l'oreille de la Bible. Ils se tourneront vers des fables. Vers des contes habilement conçus, mais qui les amènent dans les problèmes et dans le malheur. Mais toi, sois sobre en toute chose, supporte la souffrance, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. C'est ce que Paul disait ici à Timothée. Alors, ce n'est pas par des choses flatteuses qu'on peut arriver à la vérité. C'est par la vérité qu'on arrive à la vérité. Et c'est pour ça que l'Église du Dieu vivant a comme mandat de dire exactement ce qui est dans la Bible. Ce que nous comprenons de la Bible, nous le donnons, nous le rendons disponible pour l'humanité et particulièrement à l'Église, parce que l'Église doit être nourrie, doit être préparée à ce qui vient. Maintenant, revenons à Ésaïe 30, où on était tantôt, Ésaïe chapitre 30, et on va lire le verset 11. Regardez ce qui est dit ici, 30 et le verset 11. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. On ne veut même plus entendre son nom, de celui qu'on appelle le Dieu d'Israël, comme je vous ai mentionné tantôt. Pourtant, vous le savez par expérience, et vous le savez par réflexion aussi, tout dans le monde dépend des lois que Dieu a établies. Même la création physique. Quand Dieu a établi la création physique, il a établi en même temps, dans cette création-là, toute une série de lois chimiques, physiques et autres qui sont toujours opérantes. Même chose. Si vous faites bouillir de l'eau jusqu'à un certain niveau, qu'est-ce qui va se passer? Elle va devenir en vapeur, automatiquement. C'est toujours la même chose. Arrivé à tel point d'ébullition, ça devient de la vapeur. On peut s'en servir même comme une force d'énergie ou quoi que ce soit. Mais c'est une loi que Dieu a mise dans la nature. Même chose que la loi de la gravité, qui ne change pas, absolument pas. Ce n'est pas nous qui disons aujourd'hui la loi de la gravité n'existe pas, je vais pouvoir faire telle ou telle chose dans le vide, absolument pas. Que je le sache ou non, que je comprenne ou non la loi, elle va s'appliquer. Et c'est la même chose, exactement sur le plan spirituel. Dieu a fait connaître ses lois tout au long de l'histoire à l'humanité, mais l'humanité s'est toujours détournée de Dieu. Dieu appelle actuellement seulement quelques personnes à travers le monde. On peut se compter heureux et être reconnaissant d'être compté parmi ces gens-là, très reconnaissant, et agir en conséquence pour ne pas perdre ce que nous avons, parce qu'on peut perdre ce que nous avons si nous ne considérons pas ça comme précieux et si nous ne faisons pas ce que nous devons faire jusqu'au retour de Christ. On peut perdre en cours de route. On peut se perdre en cours de route. Un certain nombre ont vécu ces choses-là, on le sait. On a connu plusieurs personnes qui étaient avec nous autrefois et qui ne sont plus là, pour des raisons bien précises. Certains ont été négligents, certains ont perdu du terrain, ont commencé à voir moins clair et à s'en aller ailleurs, ont perdu le chemin. Tout dans le monde dépend des lois de Dieu et chacune de ces lois-là, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel, entraîne des conséquences. Si on les met en pratique, il y a des conséquences bonnes qui en découlent. Si on ne les met pas en pratique, il y a des conséquences négatives qui en découlent aussi. Et quand on regarde les lois de Dieu, ce sont des lois qui nous protègent. Ce sont des lois qui nous protègent. Si on ne ment pas, on a une bonne réputation et on en tire profit parce que les gens font confiance à notre parole. Si on ne vole pas, c'est la même chose. Et prenez chacune des lois de cette façon-là, ce sont des règles qui nous protègent, qui rendent notre vie heureuse. Si on est fidèle dans le mariage à notre épouse ou à notre époux, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a un couple heureux. Si on prend soin de notre conjoint, si on essaie de comprendre l'autre, comprendre ses besoins, réagir en conséquence, on bâtit une petite équipe, un couple formidable. Et il y a des conséquences heureuses à ça, si on met en pratique ces règles-là, toutes simples, mais qu'on les garde et qu'on les chérit. C'est ce qu'on doit faire. Vous savez, Dieu nous a donné ces règles-là. C'est pas pour nous compliquer la vie. C'est pour la simplifier. Puis pour qu'on soit heureux. Et Dieu nous aime plus que quiconque peut nous aimer. Dieu nous aime plus que quiconque peut nous aimer. Et il a conçu un plan qui est juste et un plan qui est bon pour l'humanité dans son ensemble. Même si l'humanité dans son ensemble ne le sait pas maintenant, elle le saura bientôt. Parce que quand le Christ va être revenu, nous allons pouvoir, nous, si nous sommes fidèles jusque-là, nous allons pouvoir l'expliquer aux êtres humains qui auront survécu à la Troisième Guerre mondiale et à la Grande Détresse. Nous allons pouvoir leur expliquer ces choses-là, puis leur montrer la splendeur du plan de Dieu auquel ils pourront participer aussi. Mais pour le moment, l'ensemble de l'humanité ne comprend pas ce qui se passe dans tous ces événements-là, ne sait pas ce qui va arriver, est inquiète, se demande à tous les niveaux comment ces choses-là vont être orientées et comment elles vont finir. Mais l'humanité, dans son ensemble, ne peut pas comprendre parce qu'elle est séparée de Dieu. La connaissance nous vient de Dieu. Dieu donne son Saint-Esprit à qui? À ceux qui s'appliquent à lui obéir. Et plus on s'applique à lui obéir, plus Dieu nous donne de comprendre des choses. Et vous savez une chose, si on comprend où les événements du monde s'en vont, si on comprend que ce qui est écrit comme annonce faite d'avance, comme prophétie dans la Bible, si on comprend que c'est en train de se réaliser et qu'on fait le lien entre les deux, c'est pas parce qu'on est plus intelligent que les autres, absolument pas. Dieu dit qu'il appelle les choses faibles du monde. Mais si on les comprend, c'est parce qu'il nous donne de les comprendre. Et c'est pour ça qu'on doit être reconnaissant de ça et tenir à ce don-là qui nous est donné à faire les choses en conséquence, à continuer d'étudier chaque jour ce livre-là qui est notre guide de vie, à parler à Dieu en prière chaque jour, à lui demander de nous donner de faire sa volonté, puis de finir l'œuvre. Parce qu'on est appelé, tous ceux qui sont appelés, on est appelé pour faire une œuvre, pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour annoncer l'Évangile au temps de la fin, afin que le Christ revienne. C'est bien marqué dans Matthieu 24, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu à être établi sur la terre sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, pas pour convertir les gens. Alors viendra la fin. Alors notre travail à nous, c'est de finir ce travail-là, et on est tout proche des derniers événements vers l'accomplissement de ça. Ésaïe 59. L'humanité dans son ensemble, elle est séparée de Dieu. Dieu ne demanderait pas mieux que de pouvoir bénir l'humanité. Il a essayé de le faire depuis le début. Il a essayé avec Adam et Ève, il leur a offert les bénir abondamment. Il a fait la même chose avec la nation d'Israël quand il les a sortis de l'esclavage d'Égypte. Il voulait les bénir, leur donner un pays formidable. Mais ils n'ont pas voulu, ils ont souffert. L'humanité n'a pas voulu suivre Dieu, elle souffre. Dieu aimerait les bénir, mais il ne peut pas pour l'instant. Il va leur donner de comprendre quand ils auront appris un certain nombre de leçons et que leur cœur sera disposé pour être capable de l'apprendre. C'est pour ça que Dieu permet aux choses d'aller dans la direction où ça va maintenant. Et regardez la position du monde, c'est bien décrit ici. Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, pour aider, pour encourager, non. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes, vos péchés, vos transgressions de la loi, dont vous ne vous repentissez pas, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation, un mur, entre vous et votre Dieu, de sorte qu'il ne peut pas nous entendre et qu'il ne peut pas nous répondre. C'est ce qui se passe avec l'humanité. Et vous regardez, quand il y a des grandes catastrophes qui se passent, qu'est-ce qui arrive? Les semaines suivantes, là, les églises de toutes les dénominations religieuses se remplissent. Et là, les gens sont fervents, ils se tournent vers Dieu pour avoir de l'aide, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et quand les choses rentrent dans l'ordre un peu, quelques semaines après, tout retombe à la normale et vous avez seulement quelques personnes dans les quelques églises habituelles qui y vont. Je ne parle pas de l'Église de Dieu ici, je parle des églises du monde. Les gens ne veulent pas changer. Ils aimeraient comprendre et ils aimeraient avoir les bénédictions. Mais ils ne veulent pas changer, tout simplement. Il dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est fort, cela. Il dit, ça l'empêche de vous écouter. Tant que je n'ai pas, et c'est la même chose pour vous qui avez été appelés, tant que je n'ai pas choisi et décidé de répondre à l'appel de Dieu en disant, oui, je vais changer. Je vois que j'ai manqué mon coup, que j'ai transgressé tes lois, Dieu. Je veux changer, aide-moi à le faire. Tant que je n'ai pas fait ça, ça n'a pas marché. Après, ça a commencé à marcher. Dieu a répondu, Dieu m'a béni, et ça a été la même chose pour vous. On pourrait échanger nos expériences là-dessus, et plus on le fait, plus Dieu est là. C'est formidable. Mais ce sont vos péchés, ceux dont on ne se repent pas, qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Allez, versets 7 et 8. Il décrit ce qui se passe dans notre société, ce qu'on voit autour. Leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre le sang innocent. Est-ce que c'est pas ça qu'on voit sur les écrans de télévision chaque jour, tous les meurtres dans nos villes, les assauts des terroristes un peu partout, le sang qui coule? Ils ont hâte de répandre le sang. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. En se levant le matin, c'est ça qu'ils ont à l'esprit. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Après qu'ils sont passés, c'est des souffrances, des douleurs, de la ruine. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Si je fais un résumé simple de ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que Dieu nous dit, lorsqu'il nous appelle, il dit, je vais vous bénir et je vais vous donner la vie éternelle. Si vous commencez à m'obéir et si vous vous appliquez à continuer à m'obéir avec mon aide. Vous n'êtes pas capable d'y arriver tout seul, mais avec mon aide, vous êtes capable d'y arriver. À l'homme, c'est impossible, mais comme c'est écrit, à Dieu, tout est possible. Il n'y a pas de faiblesse trop grande dans nos vies que Dieu ne peut pas nous aider à régler et à vaincre. Ça, c'est encourageant de le savoir. À Dieu, tout est possible. Et quand, moi, j'arrive à un point où je ne vois pas comment je pourrais sortir de telle situation, pour Dieu, lui, ce n'est pas un problème. Ce que j'ai à faire, c'est de lui mettre dans les mains et moi de continuer à m'appliquer à faire ce que j'ai à faire. Et Dieu va s'occuper du reste. Laissez ça entre ses mains. Il dit, si vous m'obéissez, je vais vous bénir et je vais vous amener à la vie éternelle. Sinon, vous souffrirez les conséquences. Et c'est comme ça depuis le tout début. Écoutez, Adam et Ève avaient une chance unique, extraordinaire, dans le jardin d'Éden, de faire une vie heureuse. Ils s'étaient vus offrir l'arbre de vie, d'avoir à ce moment-là accès à l'Esprit de Dieu, ce que nous avons eu après le baptême, quand on a eu l'imposition des mains, avoir l'Esprit de Dieu en nous. Et ce qu'on a eu avant, lorsque Dieu nous a appelés, quand il a mis son Esprit avec nous, pour qu'on comprenne sa parole et qu'on peut se mettre en marche, ce que les nouvelles personnes avec nous ont. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux, mais ils l'ont avec eux. C'est pour ça qu'ils comprennent des choses qu'ils ne comprenaient pas avant. Dieu les amène progressivement vers les autres étapes, vers le baptême, vers le fait de recevoir le Saint-Esprit en eux. Mais Adam et Ève, je reviens à ça, auraient pu recevoir le Saint-Esprit et avoir accès à la vie éternelle à ce moment-là. Et toute l'histoire de l'humanité aurait été totalement différente. Mais ils ont choisi autrement. Dieu les avait créés libres et ils ont choisi autrement. Si on regarde dans ce sens-là, les alliances que Dieu a faites, certaines des alliances que Dieu a faites dans l'Ancien Testament avec certaines personnes. C'est frappant et ça nous encourage. Je pourrais faire un sermon, j'en ferai peut-être un à un moment donné, juste sur plusieurs alliances que Dieu a faites dans l'Ancien Testament. Il en a fait une avec Noé. Qu'est-ce que Dieu a fait avec Noé? C'est qu'il lui a confié, avant que le déluge arrive et détruise toute vie humaine, il lui a confié une mission. Il a dit à Noé, tu vas annoncer ce qui s'en vient. Tu vas dire aux gens de changer de conduite par rapport au mal qu'ils font, d'arrêter de faire ça pour que je puisse les bénir. Annonce-leur ces choses-là. Qu'est-ce que Noé a fait? Noé avait le choix. Il aurait pu dire non. Comme Adam et Ève ont dit non. Mais dans ce cas-là, par rapport à cette alliance-là, Noé a obéi et il a construit l'arche en question. Malgré que, j'ajoute ceci, malgré qu'il n'y avait aucun signe de déluge. Si vous regardez le contexte, Noé a construit son arche, cet immense bateau, sur la terre ferme. Il n'y avait pas d'eau autour. Comprenez-vous qu'il a été mis dans des chansons à boire autour, dans le sens qu'il a été ridiculisé tant que ça peut être possible. La Bible ne donne pas tous les détails là-dessus, mais imaginez-vous la situation. Ce vieillard qui est en train, avec ses fils, de bâtir un bateau sur le sol ferme, loin des eaux, et qui annonce qu'il va tellement pleuvoir que ce bateau-là va être soulevé, et qu'en plus, dérange tout le monde, parce qu'il leur dit « changer ce qu'ils ne voulaient pas faire ». On l'a vu tantôt, les humains ne veulent pas changer. Ils ne voulaient pas plus à ce temps-là que maintenant. Alors, ils ont laissé faire, il a fait son travail. Il n'y avait pas de signe de déluge. Mais là, je fais une petite parenthèse. Nous, on a le message que Dieu a inspiré M. Armstrong de nous transmettre et que Dieu utilise en bénissant sa petite église actuellement de transmettre ce message-là de la grande catastrophe qui vient. Ce n'est pas un déluge, c'est la grande détresse. C'est la même chose, mais à un autre niveau, d'une autre façon. Mais c'est une détresse comme il n'y en a jamais eu depuis le commencement de l'humanité. Alors, nous, on a cette prédication-là qu'on a pour nous, on en profite. Ça nous est donné de comprendre, de savoir, puis c'est encourageant, parce qu'on sait qu'il y a une fin heureuse aussi à tout ça. Et ça, c'est tellement encourageant. Mais en même temps, nous, on a des signes. Dans le temps de Noé, il n'y avait pas de signes. Il y avait le bateau en train d'être construit sur la terre ferme, il y avait le message d'avertissement, mais il n'y avait pas de signes à voir dans la société autour, comme nous, on a. De voir les guerres qui se préparent, l'Europe qui est en train de s'unir tel que c'est écrit dans la Bible, de voir la formation d'un groupe de pays au Moyen-Orient, le roi du Sud qui va éventuellement attaquer l'Europe et tout ça. Nous, on voit tous ces signes-là. On voit la faiblesse d'économie que je vous ai parlé tantôt, la violence dans nos villes et tout ça. Nous, on a ça en plus comme, comment je dirais, comme un encouragement pour dire, regardez, ce que je vous dis est réel. La parole de Dieu, elle est véritable. Ce qui s'est accompli, qui avait été annoncé dans le passé, qui s'est accompli, prouve que Dieu est Dieu, et ce qu'il a annoncé d'autre s'en vient et va se réaliser. Hébreux 11, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 11. Ici, on parle justement de l'expérience de Noé, et j'aime ça la façon dont on décrit les choses. Ça nous renseigne et ça nous encourage énormément. Hébreux 11 et le verset 7. Regardez comment Noé a réagi. C'est par la foi que Noé, donc il y a une question de croire Dieu ici, croire ce que Dieu dit. C'est par la foi que Noé, divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas encore. On ne voyait pas encore qu'il y aurait un déluge là. Il n'y avait pas monté un mètre d'eau en attendant pendant 50 ans, puis monté graduellement là. Il n'y avait pas de signe, comme je vous disais tantôt. Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte respectueuse, c'est-à-dire de respecter celui qui avait dit que ça allait venir, construisit une arche pour sauver sa famille. Et voyez-vous que nous, l'Église de Dieu, nous annonçons ces choses-là au monde, oui, mais nous les faisons connaître et nous les expliquons en détail aux membres de l'Église, en les enjoignant de continuer de se purifier régulièrement, d'étudier chaque jour, de prier chaque jour, de jeûner régulièrement, de soutenir l'œuvre de toutes les façons possibles. Parce que ce faisant, vous construisez l'arche que Dieu va vous permettre d'utiliser pour être protégé de la grande détresse. Parce que Dieu va amener son Église dans un lieu de sécurité. Mais il faut d'abord être prêt pour ça. Ce sera ceux qui se seront préparés qui iront au lieu de sécurité. Une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Croire ce que Dieu dit et agir en conséquence. C'est pas compliqué, dans le fond. Et notre rôle, j'écoutais un sermon dernièrement de M. Wakefield qui se résumait à deux choses. Il disait, l'essentiel pour nous, c'est de croire la vérité de Dieu et de faire son œuvre. C'est les deux structures principales qui sont les nôtres dans la foi pour nous préparer au royaume. Donc, alliance avec Noé. Dieu avait fait alliance avec Noé. Il dit, si tu fais ça, je vais te protéger, toi et ta famille. Et il l'a fait. Très bien. De façon incroyable, magistrale. Il a fait alliance avec Abraham aussi. Si vous allez voir dans Genèse 17, versets 1 et 2, il a dit à Abraham, marche devant ma face. Et sois intègre, donc sois juste, pratique la justice, mets en pratique les lois que je te donne. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Et Dieu a multiplié Abraham à l'extrême, il l'a béni. Abraham, qu'est-ce qui est arrivé? Abraham n'a pas douté. Lui aussi, il a cru Dieu. Bien sûr, il n'était pas parfait. Parfois, on s'imagine que ces hommes-là ou ces femmes-là, dont on voit la description dans la Bible, c'était des gens parfaits, là, beaucoup au-dessus des gens modernes dans l'Église. Non, c'était des êtres humains aussi. La Bible ne dit pas toutes leurs petites faiblesses ou leurs fautes, mais ils en ont. Quand vous regardez dans le cas d'Abraham, à un moment donné, la Bible dit qu'il a menti deux fois de fil, en disant que son épouse, c'était pas son épouse, que c'était sa sœur, parce qu'il ne voulait pas que Pharaon l'enlève, et ainsi de suite. Il mentait, c'est une transgression des lois de Dieu. Il n'était pas parfait. Il a fallu qu'il apprenne aussi. Dans d'autres domaines, Dieu ne donne pas tous les détails, mais il a fallu qu'Abraham, comme Noé, comme vous, comme moi, on suive le même chemin de repentance sur tous les aspects de notre vie. Des fois, on s'imagine qu'ils sont dans un monde à part. Non, ce sont des appelés de Dieu qui devaient faire le même chemin qu'il nous a demandé à nous aujourd'hui. Et que nous, on va demander aux gens du monde de demain, quand le Christ va être revenu, pour qu'ils puissent avoir les bénédictions de Dieu, eux aussi. Et Abraham a atteint le but et il a réussi. Dieu a fait alliance avec la nation d'Israël. Il leur a promis qu'il allait les bénir s'ils observaient ses lois. On sait ce qui est arrivé. Ils n'ont pas cru Dieu. Ils ont fait les choses à leur façon. Il leur avait donné les 10 commandements, sa loi de base. Et Dieu ne change pas. C'est la même aujourd'hui et ce sera la même dans le monde à venir, quand Christ sera là. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Israël a refusé d'obéir à Dieu. Il a douté de Dieu, même après, dans leur cas en plus, après les 10 grands miracles de délivrance de l'Égypte. Ils n'ont pas cru Dieu, ce Dieu qui les avait délivrés d'une façon incroyable, qui n'était pas possible autrement que par des miracles superbes. Ils ont rejeté ça. Ils ont voulu sortir de l'Égypte, oui, mais à leur façon. Puis ils ont voulu sortir de l'Égypte en emmenant avec eux autres leurs anciennes traditions et leurs anciennes façons de faire, tellement que ça a ressorti tout de suite après. Ça nous dit quelque chose. Ça nous dit que tant que le cœur n'est pas changé, les choses ne changent pas. Et dans le cas de ceux que Dieu appelle maintenant, il travaille pour que nous changions au niveau intérieur de notre cœur. Il ne travaille pas au niveau des symptômes extérieurs, mais au niveau de la source du mal. Il dit « le cœur de l'homme est tortueux ». C'est là qu'il faut que nos changements se fassent. Il faut qu'on commence par reconnaître devant Dieu nos faiblesses, nos manquements, et dire à Dieu « aide-moi à changer, je veux changer, je veux t'appartenir ». Vous savez, chaque jour aux nouvelles, on voit des malheurs, des misères. Ça fait mal au cœur de voir ces choses-là. Et on supplie Dieu, si vous êtes comme moi, vous suppliez Dieu de plus en plus intensément que ton règne vienne. Donne-nous de finir l'œuvre, bénis l'œuvre financièrement pour qu'on puisse avoir les moyens de terminer à la hauteur que tu veux que ce soit, à la force que tu veux que ce soit fait pour l'annonce de l'Évangile. Et tout ça, ce qu'on voit là, les malheurs, les misères, ce sont des conséquences encore des transgressions des 10 commandements. Allez dans Osée chapitre 9. Osée chapitre 9. Chapitre 7, pardon. Osée, chapitre 7. On va lire le verset 10 à 12. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. On peut dire l'orgueil de l'humanité en général, mais de nos nations israélites en particulier, parce qu'elles ont été les premières à être appelées et à se voir révéler les lois de Dieu. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel, leur Dieu. Ils refusent de revenir à l'Éternel. Ils ne le cherchent pas malgré cela. Malgré les punitions qui sont déjà en marche, malgré les conséquences néfastes des transgressions des lois nationales et sur le plan personnel, Israël ne revient pas vers Dieu. Et il continue en disant, « Éphraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence, c'est-à-dire l'Angleterre. Ils implorent l'Égypte, ils vont en Assyrie. » Verset 12, « S'ils partent, j'étendrai sur eux mon filet, je les précipiterai comme les oiseaux du ciel, je les châtierai comme ils en ont été avertis dans leurs assemblées. » comme ils en ont été avertis dans leurs assemblées ou dans leur nation, si vous voulez. Et c'est pour ça que l'Église du Dieu vivant avertit premièrement et de façon plus intense encore, bien sûr, l'humanité en général, mais nos nations israélites dans leur assemblée. C'est pour ça que nos émissions de télévision vont sur les différents réseaux dans nos pays israélites modernes dans le plus de langues possible. Ils en ont été avertis dans leurs assemblées, au milieu de leur nation. Et c'est notre rôle, quand vous allez voir dans Ézéchiel chapitre 3, verset 17, je vais simplement vous citer, mais Ézéchiel 3, verset 17, c'est la mission de l'Église au temps de la fin. « Je t'établis comme sentinelle. » Une sentinelle, c'est quelqu'un qui garde une forteresse, qui avertit des choses qui viennent. Nous, notre rôle, c'est d'avertir les gens des grandes calamités qui viennent s'ils ne changent pas, et en même temps d'encourager ceux que Dieu a appelés à changer pour être protégés et pour avoir une vie heureuse. Il dit, « Je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras les paroles qui sortiront de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Et c'est le rôle que l'Église du Dieu vivant joue en ces temps de la fin, d'avertir d'abord les nations israélites et d'avertir les nations du monde de ce qui s'en vient. C'est important. Et si le monde, si le Christ ne revenait pas bientôt au rythme où vont les choses, il ne resterait plus âmes qui vivent sur la terre. Il ne resterait plus d'êtres vivants sur la terre. Il y a d'emmagasiner actuellement, je n'ai pas les chiffres avec moi, mais une capacité de destruction tellement grande qu'elle peut détruire plusieurs fois tous les êtres humains sur la terre, ce qui n'était pas possible autrefois. C'est possible à notre époque. Pourquoi? Parce qu'on est rendu au temps de la fin, juste avant le retour du Christ. 2 Pierre 3, chapitre 3, verset 1. 2 Pierre, chapitre 3, et on va lire le verset 1 et 2. « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez, des choses annoncées d'avance. » Et ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est des choses annoncées d'avance dans la Bible, dans l'Ancien Testament, par les prophètes de Dieu. « Que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, et nous sommes dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Vous dites que le Christ va revenir depuis des années, vous dites ça, il n'est jamais revenu. Voyons, c'est des rêves, c'est des fables que vous faites. Prophétisez-nous des choses qu'on aime entendre. Car depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement, comme si rien n'était changé. Mais ce que Dieu a promis, Dieu va l'accomplir. Vous savez, les crimes des êtres humains, et je m'inclus là-dedans, parce qu'avant que Dieu m'appelle et que je comprenne que je doive changer, je pensais comme tous les autres êtres humains. Et si Dieu ne m'avait pas appelé, je penserais encore exactement de la même façon. Et vous aussi, il faut être honnête là-dedans. À ce moment-là, nos crimes, les crimes des humains, les empêchent de comprendre. Et si on a commencé à comprendre, c'est parce qu'on a commencé à travailler à changer. Et que là, Dieu nous a donné de comprendre davantage, comme je vous ai mentionné tantôt. C'est toujours le même principe. Mais les crimes des êtres humains empêchent les humains de comprendre la grande réalité de Dieu. Et comme on a vu tantôt, empêche de l'autre côté Dieu de les entendre et de répondre à leurs prières. On a les avertissements de Dieu pour nous préparer en conséquence. On a absolument ça. Il y a des gens qui disent, devant tous ces malheurs-là, où est Dieu? Comment ça se fait que Dieu laisse autant de malheurs arriver, autant de souffrances arriver sur la face du monde? À un moment donné, on apprend le pourquoi. Parce qu'on apprend à connaître le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est le Père de tous les êtres humains au point de départ. Et on sait qu'au point de départ, Dieu veut que tous les êtres humains soient heureux. Et c'est pour ça qu'il leur a donné des lois. Mais en même temps, il leur a donné d'être libres. Et tout au long de l'histoire, Dieu a toujours averti l'humanité de ce qu'il devait faire pour être heureux. Mais l'humanité a toujours rejeté Dieu et ses envoyés. Regardez dans l'histoire. Dieu a envoyé ses prophètes. On peut étudier dans l'Ancien Testament. La plupart ont été méprisés, rejetés, ridiculisés. Plusieurs d'entre eux ont été martyrisés. Certains ont été mis à mort. Est-ce que c'est parce que les gens acceptaient le message? Absolument pas. Au bout de ça, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a envoyé son propre fils, le Christ. C'était prévu dans le plan, ce n'était pas une surprise qu'il est décédé, qu'il devait offrir sa vie, c'était un choix. Mais c'est pour vous donner une idée de la réaction des êtres humains, même devant leur Créateur, devant celui qui est venu donner sa vie pour payer l'amende de nos péchés. Ils ont tué le Fils de Dieu. Ils ont tué Dieu, Jésus-Christ, qui était venu sur la terre. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils acceptaient le message? Absolument pas. Alors, quand on dit « Où est-ce qu'il est Dieu? » Comment ça se fait qu'il n'intervient pas pour mettre fin à ces malheurs-là ou à ces misères-là? C'est qu'on ne comprend pas le vrai Dieu. Dieu nous a donné aux êtres humains ce temps-là pour faire l'expérience des souffrances qu'on a amenées sur nous-mêmes. Et après, il va mettre un terme à ça, comme on voit dans les Écritures. Écoutez, je vous donne un exemple très simple. À ceux qui êtes des parents, que vous avez eu des enfants, on peut le comprendre facilement. Si on dit à nos enfants qui grandissent, par exemple, « Faites pas telle chose, parce que si vous faites telle chose, vous allez en souffrir les conséquences. Ne faites pas ça de grâce, OK? » Mais vous n'attachez pas vos enfants pour ne pas qu'ils le fassent. Ils sont libres, comme les êtres humains ont été créés libres par Dieu. OK? Alors, si vos enfants prennent la direction opposée de ce que vous leur avez dit, dans leur liberté, et qu'ils en souffrent les conséquences, où étiez-vous? Est-ce que je peux poser la même question? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait? Vous les avez avertis, comme Dieu a fait. Vous les avez laissés faire leur expérience, comme Dieu a fait. Vous avez dit, il va y avoir des conséquences, comme Dieu a fait. Mais Dieu a prévu dans son plan d'intervenir plus tard pour mettre un terme à ça et ramener les choses dans la bonne direction après que les êtres humains, comme on permet à nos enfants de faire ces expériences-là, après que les êtres humains auront appris leurs leçons et qu'ils seront prêts à vivre selon les lois de Dieu. Dans le fond, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Et c'est intéressant de le comprendre parce que ça nous aide, et ça nous aide de voir Dieu dans cette chose-là, dans cette façon de faire. Parce que de la même façon que vous avez dit à vos enfants, ne faites pas ça parce qu'il va vous arriver telle chose, s'ils le font, est-ce que c'est votre faute? Non, c'est pas votre faute, vous les avez avertis. Est-ce que vous êtes méchant parce que la conséquence leur est arrivée? Mais non, ils l'ont choisi et il faut qu'ils vivent avec après. C'est comme ça. Et c'est peut-être, dans certains cas, la seule façon par laquelle ils vont apprendre. Est-ce que c'est parce que vous les avez abandonnés? Pas du tout. Ils ont peut-être trouvé que vous ne les avez pas abandonnés assez vite, que vous n'avez pas cessé de leur parler plus vite quand vous leur disiez « Ne faites pas ça parce que s'il va vous arriver telle chose », ils espéraient peut-être que vous cessiez de leur en parler, au contraire. Voyez-vous? Alors non, Dieu a respecté cette liberté-là et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Allez dans Jérémie 35, s'il vous plaît. Jérémie chapitre 35. C'est tellement encourageant quand on regarde les choses de cette façon-là. Jérémie, et qu'on apprend à connaître Dieu, comment il réagit, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire actuellement. Il prépare la libération de toute l'humanité. Jérémie 35, on va lire le verset 12 à 17. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevrez-vous pas mes instructions pour obéir à mes paroles? » Dit l'Éternel, « On a observé les paroles de Jonadab, fils de Rechab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire de vin, et ils n'ont point bu de vin jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin. » Donc, Dieu dit, « Je vous ai averti, là. Je vous ai parlé dès le matin. » Et vous n'avez pas écouté. Je vous ai envoyé mes serviteurs, comme je viens de vous dire. Les prophètes, je les ai envoyés dès le matin, très tôt, depuis le début de l'histoire de l'humanité, pour vous dire que chacun revienne de sa mauvaise voie. Amendez vos actions, changez votre façon d'agir. N'allez pas auprès d'autres dieux pour les servir. Et vous resterez dans le pays que je vous ai donné, vous et vos pères. Mais vous n'avez pas prêté oreille et vous n'avez pas écouté. » Alors, voyez-vous, c'est la même histoire qui s'est répétée depuis le début de l'humanité. L'histoire du cœur humain tourné vers lui-même. Vous savez, comme la Bible dit dans Romains, le cœur humain est ennemi de Dieu. Notre nature humaine, elle est ennemie de Dieu. En partant. Et c'est pour ça que les choses sont comme ça. Et le cœur humain, ennemi de Dieu, l'a emporté, je dirais, sur le simple bon sens ou l'évidence des choses. comme les Israélites auraient pu prendre une autre décision devant le simple bon sens, devant l'évidence des choses, après avoir vu les miracles extraordinaires qui ont été faits pour eux, qui leur ont permis d'être libérés, eux qui étaient quelques millions de personnes, d'un esclavage terrible, et d'avoir accès à un pays merveilleux. Non, ils ont rejeté ça, ils n'ont pas donné suite au simple bon sens, ou à la simple logique humaine, si vous voulez. Ézéchiel 33 maintenant. Ézéchiel 33 et le verset 11. Et regardez le but de Dieu ici. Et c'est vrai pour tous les êtres humains, du premier au dernier dans l'histoire humaine. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, parce que la suite finale de la transgression des lois, c'est la mort éternelle aussi, qui est impliquée, qui est incluse ici. Ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Formidable. Aujourd'hui, on l'a vu un petit peu dans le début du sermon, on est dans une situation qui est comme celle de Sodome et Gomorre. Pourquoi? Parce que l'humanité n'a pas cru Dieu, parce que l'humanité a rejeté Dieu. Nous savons ce que nous savons parce que Dieu nous l'a donné. Nous attendons la délivrance merveilleuse qui s'en vient parce que Dieu nous l'a révélé. Retournons à Matthieu 24 rapidement, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 24, où le Christ décrit ce qui doit arriver avant son retour. Verset 4, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Il y en a toujours eu dans l'histoire, des faux prophètes, des gens qui se sont servis du nom de Christ pour détourner des gens de la vérité, ou pour les garder dans l'erreur tout simplement. Mais au temps de la fin, ce phénomène-là doit aller à un niveau sans précédent. Et on le voit se passer autour de nous. Versets 4 et 5 qu'on vient de voir, c'est la séduction actuelle. Les prêtres, les pasteurs des églises disent non pas les choses de la Bible, sinon très superficiellement, ne disent pas aux gens qu'ils doivent changer, comme Dieu dit de le faire. Absolument pas. Ils disent pas, vous devez absolument changer si vous voulez plaire à Dieu, si vous voulez recevoir la vie éternelle. De toute façon, certains, un grand nombre de ces prédicateurs-là leur annoncent en même temps des faussetés en disant « Si vous êtes gentil, vous irez au ciel pour le restant de l'éternité », ce qui est contraire à la Bible. Donc, c'est ajouter un mensonge à une approche mauvaise. Les prêtres, les pasteurs disent ce qu'ils pensent, annoncent les traditions humaines, les anciennes traditions païennes, tout simplement, ce qui n'a aucune valeur. Ça va très loin. J'ai apporté un petit article avec moi pour vous montrer que ça va très loin et ce qu'ils disent dans l'ensemble n'a aucune valeur. Il y a une dame qui est ouvertement athée. Athée, ça, on ne croit pas beaucoup à Dieu, là. Une dame ouvertement athée qui est ministre au Canada d'une église. L'église United of Canada, l'église unie du Canada. Et cette dame-là, c'est une athée. Elle est ministre et elle veut garder son poste de ministre dans cette église-là, soi-disant ministre de Dieu. C'est une athée. La folie humaine va très, très loin. Lorsqu'on est séparé de Dieu, il n'y a plus aucune règle. Ça va là. Et j'ai l'article ici qui est paru le 11 janvier par la BBC. Une ministre athée travaille pour garder son poste à l'Église unie du Canada. Depuis sa fondation, il y a environ un siècle, l'Église unie du Canada est reconnue pour être très libérale et pluraliste. Elle a essayé de ramasser sous son giron, je vous donne l'essentiel, le plus de protestants possible de différentes dénominations. Alors, un peu tout le monde est accueilli. Venez comme vous êtes, je vous ai dit tantôt, hein? Venez comme vous pensez, venez comme vous êtes. On ne vous dira pas de changer, on ne vous dira pas de vous repentir. Et regardez ce que cette ministre-là dit concernant Dieu. Si ce n'est pas surnaturel, en parlant de Dieu, Si, elle ne dit pas s'il n'est pas surnaturel. Elle dit si ce n'est pas surnaturel, en parlant de Dieu, comme si ce n'était pas un personnage. Si ce n'est pas surnaturel, si ça n'intervient pas, si ce n'est pas un être divin, c'est ce qu'elle dit, elle affirme qu'il n'est pas un être divin, si ce n'est pas un être divin, si ce n'est pas quelque chose qui sait toute chose, pourquoi alors même l'appeler Dieu? Elle remet en question même le nom de Dieu en disant que ce n'est pas un personnage, que ce n'est pas un être réel, que ce n'est pas un être divin, c'est une ministre de l'Église. Et on dit à la fin de l'article, mais maintenant, une des ministres de cette Église unie en Ontario force l'Église à réexaminer les limites de son approche libérale. Je comprends? Les limites de son approche libérale. Et se demande s'il convient de garder comme ministre quelqu'un qui n'a pas la foi. Alors peut-être qu'ils vont garder comme ministre quelqu'un qui n'a pas la foi. Ça va loin, là. Mais c'est pour vous dire où les humains vont quand ils n'ont pas de ligne directrice et quand ils n'ont pas de directive sur lesquelles s'appuyer. C'est affreux. Ça, c'est les humains. C'est la même chose qu'on a fait au point de vue des guerres. Écoutez, vous vous rappelez, après la Première Guerre mondiale, il y a eu des documentaires dernièrement là-dessus. La Première Guerre mondiale, on l'a décrit comme étant la mère de toutes les guerres, parce que ça avait été ce qui avait été le plus gigantesque dans l'histoire humaine. Qu'est-ce qu'on a dit? Jamais plus de guerre. Ça a été la mère des guerres et il n'y en aura plus de pareilles. Qu'est-ce qui est arrivé? Une série de guerres entre ça et après ça, la Deuxième Guerre mondiale, qui a été encore pire. Et ça va encore plus loin. Maintenant, allons voir ce que le Christ dit ici. Je n'entrerai pas dans les détails. Allons plus loin. Verset 13. Il est question de vous et de moi, de ceux à qui il est révélé les choses précieuses qui viennent et de comprendre le sens des événements qui se passent dans la société pour nous préparer au retour de Christ. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, persévérer dans quoi? Dans les voies de Dieu, pour plaire à Dieu, pour se purifier, pour marcher dans ses voies. Comme Dieu avait dit à Abraham, « Marche devant moi et sois intègre. » Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il aura la vie éternelle et aura droit à être préservé dans le lieu de sécurité. Et regardez, il dit après, « Cette bonne nouvelle du royaume, de la venue du gouvernement mondial de Dieu sur la terre, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, simplement pour être rendu connu, disponible à toutes les nations. » C'est ce que nous faisons maintenant. Alors viendra la fin. Nous avons un travail à terminer. C'est pour ça que chaque jour, il faut prier pour ceux qui annoncent l'Évangile, pour soutenir l'œuvre, demander à Dieu qu'il bénisse l'œuvre financièrement, qu'il inspire ceux qui font ce travail-là, qu'il nous aide à être des bons ambassadeurs de Christ, parce qu'on sait que très bientôt, la fin va venir, parce qu'on voit se dérouler autour de nous ce qui a été clairement prophétisé dans les textes. J'aurais pu vous donner une série de prophéties encore et de vous montrer comment elles se réalisent à la télévision, régulièrement, dans les journaux, comment on les voit se réaliser sur la scène mondiale actuellement. Et pour nous, ce sont des signes qui vont avec l'avertissement qui est donné que nous sommes rendus au temps de la fin. Et une autre preuve de ça, c'est que la toute petite Église de Dieu, qui est sans force, est actuellement capable de diffuser l'Évangile dans tous les pays du monde, sauf deux endroits, en Corée du Nord et une principauté au nord de l'Italie. L'œuvre de Dieu est en train de s'accomplir et elle progresse très rapidement. Les événements dans le monde, tous en même temps, progressent rapidement, oui, mais en même temps, Dieu est en train de bâtir une arche pour ses fidèles serviteurs qui vont être protégés dans le lieu de sécurité et il est en train de nous donner de pouvoir terminer l'œuvre. On n'a pas le droit de douter de Dieu. On n'a pas le droit d'être inquiet de ce qui vient dans un sens. C'est inconfortable, mais on sait que Dieu va prendre soin de ceux qui prennent soin de servir Dieu et de marcher dans ses voies.